CPU, carré et petit utile.
Bonjour Solarus, tu vas bien ?
Salut.
Voilà. Ouh, j'ai trop de son. Ouh.
J'adore l'écho. C'est mieux.
Tu n'as pas une tronche d'écho, je te rassure. On vous explique, en fait, on est tout simplement, on fait une version un petit peu avant antenne, qui sera que sur le podcast. On va tout simplement bitcher, on va dire des saloperies, on va être comme des connards. Et on va dire ce que l'on a vu en fait du final du Startup Weekend 7e édition à Toulouse. Et ça reste entre nous, ça sera pas diffusé en FM. Donc ça veut dire que ça aura plus d'audience que la radio.
Faut que j'appelle en 2016.
Faut que j'appelle Waldorf, celui qui était avec moi le vendredi en train de dire des vacheries avec moi. Non, il veut pas, voilà. Donc on explique, en fait, la semaine dernière, nous avons enregistré une émission, effectivement, depuis le Startup Weekend, le dimanche, mais on ne connaissait pas encore le palmarès et on n'avait pas encore vu les présentations. Par contre, on a vu les présentations et on n'a pas invité les perdants. On est salaud. Alors, on va faire un tour des candidats qui se sont présentés. Il y avait, parmi les projets qu'on avait notés, il y avait donc Loza, qui est un gros troll sur le sol violette. Je crois qu'on peut dire comme ça.
Non, je pense que c'est pas l'idée. C'est un espèce de marketplace régional sur effectivement l'idée des monnaies alternatives locales. Voilà, il y a, c'est bon, ouais, on entend. Il y a une bonne idée de base, mais il y a à peine le terreau pour planter quelque chose, quoi. Je pense qu'ils ont besoin, s'ils veulent pousser leur idée, il faut qu'ils continuent à bosser, quoi.
En tout cas, l'idée, elle était d'obtenir 3% de Toulousains inscrits en 2 ans. Alors là-dessus, on a les chiffres du sol violette, qui est un truc qui est posté par la municipalité. Donc le chiffre d'affaires ou réussir, ils s'en foutent complètement. Et ils ont fait 2% en 7 ans, avec une force base militante. Alors ouais, on a monté une boîte derrière. Les écolos, c'est le capitalisme. Non, tu le sens pas.
Ouais, c'est une critique qui va revenir, je pense, pour beaucoup de startups. Ouais. C'est que ce qui peut marcher sur le modèle associatif et militant marche pas forcément si on veut monter une boîte et tirer du profit, quoi. Ouais. On va en reparler.
Le prix coup de cœur est allé à Freemoods. Alors Freemoods, c'est parti au départ comme étant une idée d'objet connecté anti-stress, et ils en sont arrivés en fait à un objet où il y a 3 messages possibles. Un objet à tordre pour la colère, secouer quand on est content ou rouler quand on est triste. Ils pensaient avoir un partenariat avec Team Mood, puisque c'est le projet équivalent qui existe déjà, qui est parmi les numéros 1 chez Apple, si je me trompe. Et non, je confonds avec Nicolas Deverge. Pour Dieu, non. ou Sigfox. Bon, c'est peut-être overkill, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que si tu es hôtesse d'accueil, avoir un truc en train de passer, tu vois, tu es hôtesse d'accueil chez SFR, t'as le client qui arrive qui fait « Ça n'a jamais marché, votre modem, à SFR, éphémère, on est encore dans la merde !» Et t'es là, tu es en train de rouler comme ça en disant « Je vais pas péter un câble, je vais pas péter un câble. » Ça peut être une bonne idée.
Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils sont arrivés, effectivement, avec quelque chose de matériel, hein, avec des objets connectés, avec quelque chose qui est déjà un prototype. Et après, voilà, ça pose la question. Je pense que techniquement, ils sont au point. Ils ont maturé leur produit. Maintenant, il y a un problème d'éthique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à créer des bases de données sur l'humeur des gens, sur les risques psychosociaux, il y a des grosses questions en matière d'éthique
à se poser. Ça veut dire que Facebook n'est pas éthique ?
Facebook n'est pas éthique du tout, mais voilà, vouloir
le nombre d'étudiants qu'il y a derrière nous, je crois qu'ils veulent nous tuer, ou alors ils veulent aller faire péter des bouteilles de bière belge qu'on a pété. Non, pardon, c'est un mot qu'on évitera aujourd'hui. Il y avait real-time fighting. L'idée, c'était d'essayer un vêtement virtuellement par 3D augmenté. C'est-à-dire, on entre ses mensurations et on peut voir les vêtements. Alors déjà, il y a un gros problème que nous, en tant que garçons, on ne connaît pas, mais que les filles connaissent. C'est ce qu'on appelle les tailles vanité. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'une chaussure taille 34 pour une fille fait une chaussure taille 42 pour un garçon. Donc déjà, arriver à commercialiser ça, j'ai un peu du mal à y croire. Alors après, ils se sont dit, oui, mais on pourrait justement le vendre sous forme de plugin pour la visualisation de mouvements avec le logiciel Blender. Ça peut aider aussi sur la vente à correspondance, etc. Alors il faut savoir qu'il y a un truc qui est monté d'ailleurs par une boîte toulousaine. et je fais un coucou à Guillaume Lemoine qui est CTO dans ce projet, où en fait si vous allez devant chez un opticien, vous avez un grand écran et vous avez une webcam, et vous vous mettez devant, vous attendez un petit peu et tout d'un coup, paf, vous avez des lunettes qui s'adaptent, etc. Et comme par hasard, ces lunettes qui sont présentées en vitrine. Alors nous, on porte des lunettes, hein, voilà, vous n'êtes pas encore myope, vous verrez quelques années à faire la console sous bâche en VI avec un écran brillant quand on est derrière une fenêtre, arriver très vite. Et l'idée est assez géniale en soi, mais là encore une fois, il y a encore beaucoup de monde et les patrons... Alors c'est vrai qu'il y a une campagne de mesures en ce moment qui est financée par la communauté européenne pour déterminer les nouveaux patrons au niveau européen. Elle est sur 5 ans, je crois qu'elle est toujours en cours.
Oui, c'est régulièrement. Ouais. Pour moi, le concept est bon. Simplement, effectivement, sur ce genre de marché, c'est un peu winner takes all. Quoi. C'est
first mover, ouais, average.
Le gagnant rafle tout. Et donc,
je crois que Chris est en train de se foutre de ta gueule.
Oui, bah, il peut se moquer de mon accent, il y a de quoi. Et, non, mais il peut... Enfin, voilà, on est sur un marché où si ta technologie... Et suffisamment convaincante, tu vas pouvoir la vendre, je pense, en marque blanche, la vendre aux distributeurs de vêtements. Mais s'il y a mieux que toi sur le marché, tu vas te faire évincer. Quoi. Pour moi, ce genre de projet, c'est qui tout double. Quoi. C'est soit tu réussis, soit tu te plantes complètement. Quoi.
Alors, il y avait une idée. Alors, c'est un serpent de mer. On entend beaucoup parler depuis un bout de temps, mais c'est vrai que c'est dans l'actualité avec la COP21. Le projet Know You Know, où en fait, l'idée, c'est d'aller vers une société plus responsable et plus éthique en répertoriant les acteurs bons et mauvais dans une application pour orienter les entreprises qui s'engagent. Donc, ça veut dire que sur un smartphone qui consomme comme un rat mort de l'énergie nucléaire et qui est construit à partir de terres rares pour l'écran et pour la batterie, vous allez voir en fait si vos pâtes viennent de 500 km ou de 50 km ou si les patates bio ont poussé dans le Sahel.
Ouais, ça, c'est typiquement le genre de projet, comme je disais, qui peut marcher de manière militante quand on a un objectif politique. C'est clairement pas le genre de chose qui peut marcher si on a dans le but de créer une start-up commerciale. Il parlait de se faire financer par les entreprises, c'est clairement être financé par le greenwashing, par la quête de responsabilité des entreprises. On est à la fois jugé parti, c'est pas bon. Ça, c'est le genre de projet qui ne peut marcher que si c'est militant, associatif, avec une éthique militante derrière et déclarée, quoi.
Il y a aussi un autre problème, c'est comment contrôler sur place.
Voilà, c'est ça, c'est que ça demande beaucoup.
Alors
de...
là, Greenpoint, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils ne font finalement que collecter une taxe qui reverse à des projets et ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière.
Il y a déjà des projets du genre qui existent, mais qui sont effectivement basés...
Ça demande des enquêtes sur le terrain, ou alors des collaborations avec énormément d'assos au niveau international, voilà. Comme PETA, comme le WWF et tout ça.
Le peu qui marche actuellement, effectivement, c'est basé sur le crowdsourcing, c'est-à-dire que les gens remplissent des informations, s'ils voient des informations incorrectes, ils les corrigent, un peu à la Wikipédia, quoi. C'est du crowdsourcing, quoi. C'est chacun vient apporter ce qu'il a trouvé, quoi.
Alors, je rappelle donc qu'il s'agit bien de crowdfunding et pas de crowdfunding.
Sourcing. Oui.
On la diffuse pas, celle-là, on la diffuse pas. Pas du tout. Il y avait une idée... Alors, une présentation qui était super mignonne avec un drone avec une projection holographique. Et donc, c'était Airshow. L'idée, c'était de piloter des flottes de drones avec un seul PC. Et ça, on en voit beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis 2 ans pas mal sur les salons. Il y a Parrot qui a fait des démonstrations absolument bluffantes justement là-dessus. Et là, l'idée, c'est justement de pouvoir le faire et de prendre de vitesse ces fabricants spécialisés. Et par exemple, proposer l'épandage dans les champs, l'inspection à distance, etc. Pourquoi pas ? Le gros problème, comment dire ? Depuis 1 an et demi, les drones et la législation française... Ça commence à craindre du boudin.
Pas forcément, parce que la législation des drones, c'est simplement de dire vous pouvez naviguer à vue. C'est-à-dire que vous pouvez naviguer tant que vous avez votre drone, tant que vous l'avez en vue directe. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de naviguer, par exemple pour les drones qui ont une caméra embarquée, vous n'avez pas le droit de vous servir uniquement de la caméra embarquée pour naviguer. Donc la législation n'est pas si contraignante que ça. Effectivement, on se pose un problème légal sur... Le pilotage automatique, c'est à partir du moment où c'est un ordinateur uniquement qui pilote un drone, qui est responsable en cas de problème, en cas d'accident? Est-ce que c'est le logiciel, la société? Est-ce que c'est le pilote? Ça pose beaucoup de questions qui méritent d'être posées. C'est des questions qui se poseront de toute façon. Voilà. Et sur le projet en lui-même, moi, ce que j'ai apprécié, c'est encore une fois, ils arrivent avec quelque chose de matériel, quelque chose de technique. Mais le problème est le même, c'est-à-dire que soit tu arrives à t'imposer, tu arrives à te faire racheter par, effectivement, peut-être par Parrot ou autre, à avoir un concept technique suffisamment crédible pour exister ou pour se faire racheter, soit tu auras fait ça pour rien, quoi.
Alors, ce qui est amusant, c'est que l'un des types qui était porteur du projet, on s'est dit, non mais juridiquement c'est mort, et il a été approché par quelqu'un du CNRS le soir même, et le type est en fait au chômage depuis janvier.
Ben,
ah ouais, oui, pas non, mal. C'est... Help. Passons. Le top du top. Non, parce qu'on va faire une émission complète avec eux, c'est eux qui ont gagné, voilà, je tue le suspense, donc sinon c'est pas drôle. Alors, le top du top, ce que j'ai retenu du pitch, et bon, comme d'habitude, hein, je suis un gros salaud et un putois sur l'écriture, mais je sais pas comment le résumer autrement. Faire mieux que TripAdvisor en faisant comme TripAdvisor, même si Yelp le fait déjà en tentant, mais qu'en fait, on ne va pas noter les restaurants en fonction de l'ensemble « je suis accueilli » et la décoration, mais en notant que les plats des restaurants. Alors ça me fait comme ça évitera justement les mauvaises critiques des restaurants concurrents. Alors je ne sais pas si ça va arrêter cette parano comme quoi les autres restaurants font des mauvaises critiques sur les autres restos. Ce qui en soi, je regarde une blogueuse culinaire, c'est un peu la légende urbaine. Non, d'accord. Mais quand même, des fois ils exagèrent un peu.
Non.
Non, bon d'accord. Tu tiens pas de griller, c'est ça? Tu veux dire que t'es écouté toi aussi, d'accord. Et en fait, le problème que je vois, c'est la masse critique. C'est le nombre qu'il va falloir de bonnes notes ou de mauvaises notes sur chaque plat, dans chaque resto, à condition que tout le monde fasse l'ensemble de la carte et joue le jeu et le note, avant que ça devienne crédible. Là, je vois le catch burnout et la fermeture de la boîte avant même qu'ils atteignent cette masse critique.
Bah. Clairement, il y a un problème de masse critique. Il y a des soucis qui ont été relevés par les jurés du Startup Weekend auquel j'adhère. C'est de dire, voilà, il y a un resto qui a une côte de bœuf très bien notée, mais votre compagne, elle prend du poisson. Comment on trouve le bon resto qui sert la bonne côte de bœuf et le bon poisson? C'est tout de suite moins évident. Dès qu'on veut croiser des plats, dès qu'on veut manger à plus de 2-3... il faut un bon algorithme derrière, je pense, pour...
Je donnerai les bonnes adresses, sinon.
Voilà. Et, voilà, et le souci, effectivement, c'est que ben, quand on va au restaurant, c'est... Il y a des gens qui ont la chance, peut-être, de manger au restaurant plusieurs fois par semaine, mais pour la plupart des gens, manger au restaurant, c'est un événement, et on a envie aussi de le faire dans un bon cadre et dans de bonnes conditions, et d'être bien accueilli, et pas forcément juste de bien manger, quoi.
Et je ne parle pas de la fête que c'est tous les jours dans les restaurants d'entreprise. Tutut, c'était arrivé second. Alors l'idée était géniale. C'est un outil de mutualisation de véhicules avec des coffres généreux à louer pour les étudiants non toulousains qui emménagent. Alors je profite d'ailleurs qu'il y a quand même quelques étudiants qu'on dérange là de Epitech Toulouse. On en a à peu près une vingtaine. Il y a combien qui ne sont pas de Toulouse ici? Ouais. Ouais, là, 50% de ceux qui sont présents. Et combien ont dû emménager du coup et copro et tout le reste? Ok, toujours 50%. Et combien auraient songé à faire appel à un service de location plutôt qu'à papa, maman et tout ça? Voilà.
Et est-ce que vous avez appris à dire chocolatine?
S'ils viennent de l'Ariège, tu sais... enfin bon, non mais c'est mignon, mais... Enfin bon, il y a un manque d'études de l'existant et même d'imaginer le business plan, j'ai un peu du mal. Par contre, il y a un des projets, puisque je rappelle, c'est du prototypage de projet. Il y a un projet, franchement, on était là, c'était notre coup de cœur à nous. Ils sont pas du tout sur le palmarès, alors qu'on s'est dit, non, mais c'est génial comme idée. Fly Together,
ouais.
Et l'idée, c'est de dire, je vais me faire chier pendant 2 heures en avion, en allant à Berlin pour aller voir le grand patron, etc. Autant avant que je prenne l'avion, que je trouve quelqu'un qui est une conversation intéressante à faire avec moi. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est une appli où on signale le vol sur lequel on va être, quels sont les sujets de conversation sur lesquels on aimerait discuter, Et donc, derrière, bah, un bête algo de match, voilà. Alors, ça pose des problèmes, effectivement, sur la confidentialité des données, mais je vous rassure, avec le PNR bientôt rendu obligatoire au niveau européen, le registre national des voyageurs, pas de problème, on saura même votre opinion politique, et même les prestats. Mais par contre, je me suis dit, peut-être que chez Air France, ça les intéresserait, non ? Ah, ouais. Ouais, parce qu'on a Jean Lestang qui est au cadre chez Air France, et en charge justement de ce genre de projet et tout. Et non, et il a dit, franchement, je t'ai vu vendredi, tu m'as dit, attends, excuse-moi, mais là, il y en a un, je veux aller le voir. Et il m'a soufflé la conversation. Alors, là, je me suis dit, ah, pas mal. Sachant qu'ils avaient fait une bonne étude de l'existant, ils avaient remarqué que KLM le faisait déjà. De leur côté, et IDTGV aussi. Donc, une conversation fait oublier tout l'inconfort. Là, franchement, pour une fois, il y avait de l'étude. Et ah, c'était ouais, pas con. Pense,
mais encore une fois, c'est très concurrentiel, et soit ils arrivent à s'imposer, à vendre leur système en marque blanche aux compagnies. Voilà, c'est le seul moyen d'exister, quoi.
Alors, là, il y a un truc que j'ai rien compris. Kif Company. L'idée est de travailler sur la viralité et aider les ambassadeurs de marques comme Facebook, Herbalife, Tupperware. Vous savez ce que c'est, les jeunes, Tupperware ? D'accord. Vous voyez ce que je veux dire. Target, les startups qui ont besoin de monter rapidement une communauté engagée. Et là, c'est moi qui l'écris. B2B, 2C, 2C, 2B2C. Un marchand, donc, qui doit convaincre un utilisateur de convaincre d'autres utilisateurs de venir affilier pour le dit marchand pour avoir d'autres clients. Même le jury avait trouvé que c'était quand même un poil compliqué.
Bah, oui, clairement, le point problématique qui a été soulevé, c'est que c'est déjà difficile de faire de l'acquisition, que ce soit de partenaires, de clients au premier niveau. Dès qu'il faut faire une acquisition au deuxième niveau, c'est-à-dire acquérir le client d'un client ou le fournisseur d'un fournisseur ou le client d'un fournisseur, tout de suite, c'est compliqué. Donc, faire ça sur deux ou trois niveaux, c'est quasiment impossible, quoi. Il y a toutes les chances de se casser les dents, quoi.
Il y a deux ans, le projet qu'avait gagné, c'était un retour brick to mortar, ça veut dire retour en magasin, tout simplement, sur la rue. Et là, c'est un peu la même chose, speed deal, où l'idée, c'est qu'en fait, on fait le tour. Alors, franchement, avec une présentation, je crois que personne n'a compris. C'était une scénette qui était jouée de shopping. En fait, c'est un type qui est en plein shopping spree. Et j'ai le porteur de projet en face de moi, donc je le dis. Et en fait, voilà, l'idée, c'est que si on paie en une fois en rentrant chez soi, après avoir flashé chez tous les commerçants les produits qui nous intéressent, et on se fait livrer chez nous. Alors, ouais, alors il y a un problème en e-commerce qu'on connaît bien qui s'appelle le taux de transformation. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à faire un panier et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à j'ai payé et je vais me faire livrer. En ayant dit non auparavant sur les assurances, sur les livraisons, sur la garantie étendue et tout le reste. Celui qui a réussi le mieux là-dessus, ben, c'est Amazon quand ils ont inventé l'achat en un clic.
Avec le one click, ouais.
Voilà. Et là, le gros problème, c'est que du coup, quand tu rentres chez toi, première chose que tu vas faire quand tu vas sur Internet, ben, tu vas regarder sur Amazon, sur les sites concurrents. Autre problème aussi, ça veut dire dans ce cas-là qu'il faut faire des codes barres. Bon, allez, on est ambitieux. Des QR codes holographiques en 4D, hein. Vu la densité d'informations. On a à la fois la référence IBAN 13 ou IBAN 20 du produit, la variation du produit, bah oui, hein, les t-shirts en couleur et en dimension, ils partagent le même code barre, et en fait, l'identifiant du commerçant. Ça fait quand même un petit peu beaucoup. Par contre, là où c'est génial, et quand même, il faut dire, c'est loin d'être con, c'est le nombre de fois que ça m'est arrivé d'aller pour acheter un truc. Et le commerçant me dit, ben non, je suis en rupture de stock, mais vous repassez demain si je me fais livrer. Et là, effectivement, s'il y a un système de livraison derrière qui est costaud, ça peut être bien.
Ça, les commerçants sont au courant, je pense. Il y a deux soucis. Il y a effectivement le paiement dématérialisé, où là, le créneau est mais vraiment blindé. Il y a PayPal qui est vraiment en pointe là-dessus. Il y a Orange Pay qui arrive
Tu y crois ?
J'y crois. Je ne sais pas si ça va.
Toi, tu dois être employé quelque part.
Non, mais vraiment, je pense que vraiment PayPal va s'imposer. Je ne sais pas à quel pourcentage, mais va s'imposer. Orange Pay va exister. Il y a d'autres solutions équivalentes qui vont exister, qui vont avoir leur petite part de marché. Mais le paiement électronique, ça reste toujours un problème de marge. C'est-à-dire que on le voit pour les cartes bleues. Si les marges pour les commerçants sont pas chères, les commerçants, ils font la carte bleue à partir d'un euro. C'est qu'un problème de marge, qu'un problème de tarification des banques pour les commerçants.
De toute façon, avec les attentats de janvier, on avait réduit le plafond de paiement liquide à 3000 euros. Avec ceux de novembre, ça aura réduit le plafond de paiement à 1000 euros. Là, normalement, on devrait interdire le plafond de paiement et de retrait en liquide à 50 euros.
De toute façon, les agents de la DGSI, ils ne veulent pas aller voir dans le fichier Trafin, ils ont peur de trouver des politiques.
C'est pas une blague, malheureusement, c'est dans un article du Monde d'aujourd'hui. Et le dernier est arrivé troisième sur le podium. Non mais dernier parce que c'est le dernier à s'être présenté dans l'ordre de mes notes. Ben non, mais vous croyez que j'ai eu le temps de reclasser mes notes? Non mais donc One Click DJ, et en fait c'était un DJ qui a fait un constat, c'est qu'il a voulu se marier, il a pas trouvé DJ. Alors déjà, je viens d'une radio asso où on a du reggae, de la drum and bass, du reggaeton, du classique. On a un peu de tout. Et des DJ qui ne connaissent pas d'autres DJ de leur spécialité suffisamment de confiance pour animer leur mariage, quand même. Après, l'idée est intéressante. L'idée est vraiment qu'il y ait une mixtape de démo du DJ, qu'eux, ils auditent du coup le matériel du DJ, donc ça veut dire se déplacer et tout le reste. Et quelque chose m'a dit que ce type, ce n'était pas sa première expérience. Effectivement, sur sa bio sur Twitter, il a une agence de booking de DJ.
Ouais, mais
donc il est arrivé, mais c'est pas la première fois. Lise Béjuin, on en a parlé il y a 15 jours. Mm-hmm. Elle était arrivée, son appli était déjà bien avancée avant que Lolliplop l'emporte. Donc voilà quoi, c'est pas interdit en soi.
Oui, non, mais voilà, sur le projet, ils sont arrivés effectivement à quelque chose de construit. Ils sont arrivés avec un mock-up effectivement de leur futur marketplace. Ça peut marcher. Maintenant, on tombe toujours dans le cliché de l'uberisation de tel ou tel secteur, l'uberisation des DJ, ça peut marcher.
C'est que ça s'appelle la radio.
Ouais, non, mais voilà, ça peut marcher si ça trouve son public. Maintenant, est-ce qu'on galère vraiment à trouver un DJ? Je suis pas, voilà, vraiment, je suis incapable de dire si ça peut marcher ou pas, quoi. Mais bon, bien malin, celui qui peut tout prédire.
Ouais. Je crois que j'étais bien content de ne pas être DJ au mariage de quelqu'un ici. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est toujours débordant d'énergie. C'est franchement intéressant. Et des fois, les projets qu'on ne voit pas passer sur le podium décollent à côté. Il y a vraiment de bonnes expériences. Et ça donne envie quand même, mine de rien.
Ouais, c'est du capitalisme cool et décontracté.
Dit-on sur une radio d'extrême gauche, en plein débat houleux sur la loi travail. Mais heureusement, je suis là pour rééquilibrer ceci à droite. Voilà, ça c'est la fin du warm-up au podcast. Maintenant, on va enregistrer l'émission, celle qui sera diffusée à l'antenne. Et on y va.